Nous poursuivons la rencontre avec le ressuscité dans les lectures. Et avant tout, nous retrouvons un extrait des Actes des Apôtres. Je fais une petite parenthèse sur ce sujet. Il n'existe pas beaucoup de commentaires sur les Actes des Apôtres en français. Il y a un certain dépit de la part des exégètes sur les Actes des Apôtres, parce que ce ne serait pas comme ça. Enfin bref, l'histoire de l'Église ne serait pas l'histoire de l'Église. Alors, il y a un commentaire extrêmement complet d'un protestant qui s'appelle Bard, Édouard Bard, qui est évidemment protestant, puisque voilà. Néanmoins, il n'existe pas grand-chose en français. Et c'est vraiment l'occasion de lire cet ouvrage pendant le temps de Pâques, pendant le temps pascal, puisque nous sommes dans le temps des Actes des Apôtres, précisément. Et avec ce 29e chapitre dont je parlais hier, qui reste à écrire, qui est, ou pas à écrire, mais qui est le nôtre. Et alors, sur ce verset 2:36 que nous entendons, où Pierre a pris la parole, donc les auditeurs sont touchés au cœur. Et Bard écrit ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Messie, vous l'avez crucifié. Bon, ça y reprend ce qui est écrit. Vous vous êtes donc mis en opposition directe avec Dieu. Pouvez-vous, voulez-vous rester dans cette situation? Au fond, c'est pas écrit, hein, on est bien d'accord. Mais finalement, c'est exactement ce qu'entendent les gens. Voilà, vous vous êtes mis en opposition à Dieu, que voulez-vous faire? Et cela va déclencher toutes ces conversions, afin que les promesses de salut puissent s'accomplir. Et ce qui est impressionnant ici, c'est que ce n'est pas la parole de Jésus qui va susciter ces conversions. Alors bon, évidemment, hein, les conversions, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'empêche que c'est pas à l'origine de ça, c'est pas la parole de Jésus, c'est la parole de Pierre. Je pense que c'est une bonne, un bon jour pour s'en souvenir, alors que le pape François nous a quittés, de nous rappeler que la parole de Pierre est celle qui peut aujourd'hui toucher les cœurs. Et c'est ce qui se passe dans les Actes des Apôtres. Et alors évidemment, les Actes des Apôtres, ça se passe après les Évangiles, hein. Nous avons ça dans cet ordre-là, puisque le cœur de notre foi est dans les Évangiles, et que les Actes bien sont le déploiement, d'une certaine manière, de cet Évangile chez les fidèles, avec les effets que cela peut avoir. Néanmoins, nous notons que il y a une rencontre dans l'Évangile et qu'il y a aussi une rencontre dans les Actes. Et que la rencontre dans les Actes, par la parole de Pierre, n'est possible que parce qu'il y a eu à l'origine la rencontre avec Jésus ressuscité. Je vais y revenir. Je conserve pour l'instant cette idée de conversion, de retournement. Cela signifie clairement, et c'est très important dans le temps pascal, un changement de vie. C'est-à-dire que le temps du carême nous avait donné un certain élan pour nous préparer, et d'une certaine manière, je vais prendre une image, nous avions monté, ou descendu du reste, enfin, ça c'est spirituel, mais nous avions monté une échelle, qui est l'échelle du plongeoir de la piscine. Et là, on est en haut, et la question est de savoir, je plonge ou je redescends l'échelle. Alors, comme vous l'avez peut-être malheureusement déjà expérimenté, on a souvent tendance à descendre l'échelle, alors qu'il faut plonger. Plonger, ça veut dire ben, lâcher tout. Plonger dans l'eau. C'est-à-dire que le baptême soit pour nous je ne dirais pas renouvelé, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, mais que l'effet du baptême, soit les effets du baptême prennent encore plus de place en nous, et que nous changions vraiment de vie. Et pour changer vraiment de vie, eh bien, tout le carême nous y a préparé, de renoncer à l'image, de renoncer à les fréquentations dans lesquelles non seulement nous ne nous grandissons pas, mais nous ne faisons pas grandir les autres. Toutes ces choses-là qui, au fond, sont ce qu'on appelle du monde, qui ne conduisent pas à Dieu, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas du Saint-Esprit. D'où cette invitation de Pierre à dire, voilà, pour vous qui êtes là, pour ceux qui sont loin, changez de vie immédiatement. Pas demain, maintenant. Et cette parole est accueillie et on nous annonce 3000 personnes, de 3000 baptêmes. Alors c'est des baptêmes au nom de Jésus. Peut être un peu curieux pour nous, hein, parce que aujourd'hui on baptise pas au nom de Jésus, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, on est au tout début. Bon, je suis pas exégète. Hein, moi, je dirais que Pierre connaissait le baptême de Jean et que c'est devenu le baptême de Jésus, puisque Jean s'est effacé devant Jésus et que c'est pas encore conceptualisé tout à fait clairement. Il faut d'abord être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Ça fait quand même penser au baptême de Jésus, qui n'est pas le baptême qu'on reçoit au nom de Jésus, puisque Jésus a reçu le baptême de Jean. J'espère que vous suivez. Mais il se trouve que quand Jésus a été baptisé, l'Esprit-Saint est venu sur lui. Il est possible que Pierre soit sur cette même lancée au moment où il dit ça. C'est d'abord après avoir renoncer à tout, que le Saint-Esprit arrive. Aujourd'hui, on considère que tout ça est un. De toute façon, Jésus est en Dieu. Quand il y a Jésus, il y a le Père et l'Esprit-Saint. Quand il y a l'Esprit-Saint, il y a le Père et Jésus. Et quand il y a le Père, il y a aussi forcément le Fils et l'Esprit. Et ceci nous conduit donc à la rencontre préliminaire, hein, à la rencontre de Jésus ressuscité. Donc vous savez que pendant toute cette semaine, tous les évangiles vont nous parler d'une rencontre avec Jésus. Une rencontre, une rencontre, une rencontre, une rencontre. Jésus ressuscité ne tient pas en place. Il rencontre tout le monde. Et c'est très impressionnant. Il veut rencontrer, il vient à la rencontre. Vous remarquerez que ce ne sont jamais les autres qui vont à sa rencontre. C'est toujours lui qui vient, et ça n'a pas changé, figurez-vous. Jésus vient à nos rencontres sur nos routes de Galilée, qui sont nos routes quotidiennes aujourd'hui. Cette rencontre, eh bien, précisément comme celle avec la parole de Pierre, change tout, doit tout changer. C'est-à-dire que si ça ne change pas encore tout, d'abord il faut le demander, et ça peut surtout nous éclairer. Donc, il ne faut pas du tout se dire « ouais, c'est pas pour moi ». Non, non, si ça change tout, ça veut juste dire qu'en nous, il y a encore des choses qui ne sont pas prêtes à bouger. Alors, encore une fois, hein, on en a eu beaucoup d'illustrations dans le pontificat du pape François. Pour beaucoup de gens, ce n'était pas tolérable de nous dire tout un tas de choses. Il faut reconnaître, et lui-même le reconnaissait, hein, il y avait une brusquerie dans les décisions du pape, souvent très verticale. Néanmoins, c'est vraiment le successeur de Pierre. Hein. Quand il parle, il faut que ça bouge. Bon, donc le pape François a été beaucoup dans ça, il a beaucoup secoué les membres de l'Église. Et au fond, c'est exactement ce qui se passe. Alors évidemment, Jésus a des manières un peu différentes, parce que Marie, elle n'est pas secouée. Elle est juste appelée par son prénom. Et c'est très impressionnant de voir qu'elle entend Jésus l'appeler par son prénom. Alors c'est une expérience que nous ne faisons pas forcément tous. D'abord, on ne la fait habituellement pas de façon incarnée, parce que pas sûr que vous ayez des apparitions de Jésus. Mais intérieurement, à travers des textes parfois, ou une parole de quelqu'un, on a l'impression d'avoir été rejoint d'une manière plus surnaturelle qu'elle n'a été naturelle finalement. Il y a quelque chose derrière. Voilà, donc il s'agit de nous laisser rejoindre par cette parole qui est à la fois celle de Jésus, qui prononce notre prénom, et à la fois celle de Pierre, successeur, vicaire du Christ, donc qui n'est pas évidemment successeur, hein, qui est vicaire du Christ, désigné par Jésus et tous ses successeurs. C'est aussi l'occasion pour nous de nous préparer à entendre la parole que nous donnera, nous l'espérons, quand ce sera l'heure, eh bien, le successeur de François, c'est-à-dire le successeur de Pierre. Entendre cette parole, l'accueillir, ne pas être comme ces gens qui... je me souviens d'une personne qui, quand Benoît XVI avait été... le cardinal Ratzinger avait été élu pape, avait eu comme réaction « je suis inquiet ». Bon, moi j'étais un peu inquiet de la foi de cet évêque, parce qu'on ne peut pas être inquiet. On doit être dans l'accueil de celui que Dieu désigne par la voix, fut-elle parfois calculatrice des cardinaux. Regardez, c'est toute l'histoire de la Passion, hein. Il fallait que le Christ souffrît, Ponce Pilate a accompli ce qui devait être fait. Le grand prêtre a été prophète cette année-là. Donc c'est en voulant détruire, assassiner Jésus qu'ils ont accompli la parole. Tout ça pour dire que, quels que soient nos calculs, Dieu fait son chemin, même pas mal. Passion, elle a eu mal, hein. Mais voyez ce que je veux dire, ça ne changera rien à la volonté de Dieu de conduire son Église. Donc il faut vraiment bien nous entraîner à la foi, et c'est très beau que cette semaine de Pâques, que ce départ du pape se trouve dans cette semaine de Pâques, qui est une semaine de la foi, de la rencontre, et de nous préparer finalement aussi à rencontrer ce nouveau vicaire du Christ qui nous sera donné. Donc voilà, restons toujours dans cette rencontre, cherchons cette rencontre, posons-nous des questions, attendons-nous à rencontrer Jésus cette semaine de façon plus singulière, parce que c'est la semaine de la résurrection. Donc soyons plus attentifs dans les gens qu'on voit, dans les échanges qu'on a, toujours en nous demandant est-ce que Jésus vient de frapper à la porte ou pas. Je crois que si nous ne vivons pas la parole de Dieu comme elle est, c'est-à-dire une parole actuelle, et bien précisément, on reste à la porte. Alors n'y restons pas.